cobuzz.com.
Rencontre par Marc Zisman.
Marc Vignal.
Bonjour.
Alors Marc Vignal, vous êtes musicologue, écrivain, journaliste et au milieu de tout ça, grandissime spécialiste, on va dire, de Haydn.
Oui.
Haydn qui est un nom qu'on va beaucoup entendre, je pense, l'année prochaine, puisque l'année prochaine sera le 200e anniversaire de sa mort, le 31 mai.
Alors, le dimanche, je vais prendre une côte.
Voilà. Alors je pourrais peut-être commencer, avant qu'on attaque le vif du sujet, peut-être par une question un petit peu plus personnelle. Évidemment, votre connaissance, votre culture musicale ne se limite pas à ce compositeur. Non. Mais qu'est-ce qui a fait, comment on entre en Haydn, comment on entre en religion, et pourquoi plus lui qu'un autre? Quelle est votre histoire, vous, personnelle, avec lui?
Quand j'ai commencé à m'intéresser à la musique, il y a un bon bout de temps de ça, il y a trois personnes qui ont été d'abord mes centres d'intérêt, c'est Haydn, Mozart et Beethoven. Donc, c'est quand même une trilogie de gens qui ont vécu à peu près au même endroit et en même temps. Et des trois, les trois m'ont intéressé autant les uns que les autres, mais je me suis spécialement intéressé à Haydn assez vite. Ce qui ne va pas dire négliger les deux. Parce qu'en fait, on ne peut pas connaître l'un des trois bien sans connaître bien les deux autres.
Quand on passe comme ça toute une grande partie de sa vie avec un compositeur quasiment, d'un siècle passé, c'est quasiment presque une histoire d'amour. On apprend des choses, vous faites des recherches, vous apprenez des... Comment évolue justement cette relation à travers le temps? En plus, on vous interroge, comme là, par exemple.
Oui. Écoutez, au début, je connaissais des œuvres, en particulier parce que je faisais du piano et j'ai joué des sonates et des symphonies à quatre mains. Et puis, petit à petit, je me suis intéressé à l'homme lui-même. Et puis, ça s'est approfondi au fil des ans, parce que j'ai connu des gens, parce que j'ai appris comment faire pour connaître bien quelqu'un. Et ça a donné finalement mon livre qui est paru en 1988, en décembre 88, il y a exactement 20 ans. Et ça a été comme la fin de quelque chose. Et puis, en quelque sorte, ça a continué depuis. Parce que depuis 20 ans, on a trouvé des choses, on a trouvé des choses qu'on ne connaissait pas à l'époque. Pas beaucoup, mais quand même certaines.
Oui, ce que je veux dire, c'est en plus un des intérêts, c'est que c'est un compositeur qui a une œuvre hallucinante.
Ce n'est pas un des compositeurs, qui est le chouchou du public. On demande aux gens, qu'est-ce que vous aimez? En général, Bach, Mozart, Beethoven, hop. C'est quelqu'un qu'on cite... pas toujours spontanément, ça arrive, mais c'est quelqu'un qui a une qualité, une notoriété telle quand même qu'il est toujours plus ou moins d'actualité.
Mais c'est d'autant plus étonnant que de son temps, il était d'une popularité incroyable, oui, par rapport à Mozart, qui
mais,
de son temps oui, était...
Oui, mais moins... ça, c'était les conditions de l'époque qu'il voulait. Je pourrais en reparler si vous voulez, vous m'interrogez là-dessus, mais je pense que ce qu'on peut dire d'une chose déjà maintenant, c'est que de son temps, la musique de Mozart était perçue comme plus difficile que celle de Haydn, pour tout un tas de raisons, alors que maintenant, ce serait plutôt le contraire. Maintenant, ce serait plutôt le contraire. C'est à la gloire de l'un et de l'autre.
Alors justement, donc cet anniversaire l'année prochaine, cette année, on va entendre plein d'étiquettes. Alors c'est vrai que souvent les étiquettes un peu qu'on a tendance à lui donner, c'est un peu le père des symphonies, la musique de chambre, toutes ces choses-là qui sont quand même...
C'est vrai. Vrai, parce voilà. Que si on veut situer Haydn dans l'histoire de la musique, c'est le premier grand compositeur qui a personnifié une nouvelle époque. Cette nouvelle époque étant en gros l'âge classique par rapport à l'âge baroque. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'entre pas trop loin dans les détails, mais c'est quand même la période qui a vu naître des genres qu'on ne connaissait pas auparavant, à savoir le quatuor à cordes et la symphonie, et aussi une façon de penser en musique beaucoup plus dynamique qu'auparavant. Et Haydn est quelqu'un qui est né en même temps que ces choses-là, et c'est le premier grand compositeur qui les a personnifiées. Ça, c'était très net pour les contemporains.
En quoi, justement, ça, est-ce que c'est sa personnalité qui a réussi? Pourquoi lui, justement, sur des formes dont on lui attribue la paternité, mais qui parfois existaient avant lui?
Oui, mais c'est quand même le premier qui les a traités de façon géniale. Et dès le début, il n'a pas attendu ses dernières œuvres pour écrire des musiques de très haut niveau. Et puis, c'est des choses qui sont produites, en particulier à Vienne, vers 1760. Et il y a eu tout un tas de compositeurs qui sont engouffrés dans cette nouveauté, parmi lesquels Haydn. Et très vite, il a dominé les autres. Mozart est intervenu un peu plus tard et dans un autre contexte.
Alors justement, vous avez cité tout à l'heure, vous avez dit Mozart, Haydn, Beethoven. Alors il y a un côté un peu, j'allais dire, alléchant, presque marketing, en disant qu'effectivement, il a connu les deux. Donc, c'est une réalité.
C'est le seul des trois qui ait connu les deux.
Voilà, exactement, en
plus.
Parce
qu'il a été à Vienne dans les années 80, en même temps que Mozart. Donc ils se sont vus de temps en temps, pas très souvent, mais ils se sont vus et ils se connaissaient. Et puis ensuite, dans les années 90, il a été le maître de Beethoven. Et ils ont coexisté aussi pendant une dizaine d'années en tant que compositeur actif à Vienne. Alors que quand Beethoven est arrivé à Vienne, Mozart était mort depuis moins d'un an, mais il était mort. Donc ils s'étaient vus très brièvement deux ans auparavant, mais sans que ça marque ni l'un ni l'autre.
En tout cas, j'allais vous demander, est-ce que c'est
peut-être Beethoven, mais en tout cas pas Mozart. Quand Mozart a rencontré Beethoven, Beethoven était un jeune homme de 17 ans, comme Mozart en a vu défiler beaucoup devant lui. Et ensuite, il n'a plus jamais entendu parler de Beethoven. Donc Haydn est le seul qui est connu les deux autres.
Alors justement, dans ces commémorations, c'est intéressant de voir, donc on va en parler, mais comment un compositeur est perçu à travers les siècles? Comment son œuvre, justement, à lui, qui était très populaire dans son temps, qui a un peu a évolué, comment vous voyez, justement, dans les siècles qui ont suivi, son œuvre a été perçue, a disparu,
bon,
etc.
C'est quand même un des premiers compositeurs de l'histoire de la musique, avec Mozart et Gluck à l'opéra, qui a été constamment présent sur la scène musicale de son époque jusqu'à la nôtre. C'est-à-dire, si jamais quelqu'un qui est tombé entièrement de l'oubli. On l'a toujours joué du XVIIIe siècle, la seconde moitié, jusqu'à maintenant, c'est-à-dire pendant 250 ans. Alors, bien sûr, au XIXe siècle, et en particulier à l'époque romantique, on jouait surtout ses dernières œuvres, à savoir ses dernières symphonies, ses derniers quatuors, quelques trios, et ceux de grands oratorios, La création et les saisons, qui sont des œuvres de l'extrême fin de sa vie. Ça, c'est jamais sorti du répertoire. Les œuvres plus anciennes de Haydn, comme celles de Mozart d'ailleurs, ont été moins pratiquées. Et au XXe siècle, pour tout un tas de raisons, parce qu'on s'intéresse à la musique du passé, parce qu'on édite, etc., on a peu à peu redécouvert leur production tout entière.
Thank you. justement, pour le XXe siècle, le siècle du disque, on va dire, de l'enregistrement, comment justement Haydn a vécu ce siècle, c'est-à-dire comment il a été enregistré, bien, mal,
alors,
etc.
Je vous dis, on a commencé à s'intéresser vraiment à Haydn d'une façon nouvelle vers le milieu du XXe siècle. C'est pas, on a fait, il y a des ouvrages importants qui sont sortis sur lui, en particulier l'ouvrage de Robin Slandon sur les symphonies. C'était la première étude d'ensemble, d'un point de vue tant des sources que musicales, sur les symphonies. C'est un bouquin qui est paru en 1955. Et en plus, il faut dire que le disque, du temps du 78 tours, on a enregistré du Haydn. Et plus qu'on ne croit, il y a eu environ une trentaine de symphonies, ce qui est même beaucoup, qui sont parues en 78 tours.
C'est propre à certains pays, plus que d'autres, qui ont enregistré, ou c'était assez...
En Allemagne, ouais. Aux États-Unis, un peu en France, en Angleterre. Bon. Et avec le micro-sillon, c'est un des compositeurs qui a énormément profité de l'arrivée du micro-sillon. C'est dans ce cadre-là, y a des marques qui ont commencé dans les années 1950 à enregistrer plein d'œuvres de Haydn qui ne l'avaient jamais été. Même chose pour Mozart. Hein. La maison mineure de Mozart qu'on enregistre et qu'on joue sans arrêt, le premier disque est paru dans les années 50, pas avant.
Est-ce que vous, à titre personnel, dans cette période-là, il y a des enregistrements précis qui vous semblent importants et...
Ben, ça a été la première fois qu'on a enregistré La Création et les Saisons, les deux grands scénarios de la dernière période de Haydn, complet. Auparavant, il y a eu quelques airs d'enregistrer, même des chœurs, mais les versions complètes de La Création des Saisons, on en a disposé au début des années 1950. Encore, c'était des bandes radio de l'Autriche de 10 ans auparavant. Même chose pour certains opéras de Mozart. La première intégrale des symphonies est parue dans les années 1970, l'Équateur à cordes, etc. Donc, il a beaucoup bénéficié de ça, et il a aussi beaucoup bénéficié, encore plus, du CD depuis une vingtaine d'années, quoi, du disque compact. Donc, non seulement on s'est intéressé à sa musique d'une façon nouvelle, mais en plus, elle était disponible. Elle est devenue disponible aussi bien dans les éditions papier que en disque. Donc, on a pu l'entendre. Il y a plein d'œuvres qu'on a enregistrées pour la première fois, disons, depuis les années 50.
Est-ce que je vais vous demander, depuis justement les 50 dernières années, comment l'œuvre, justement, dans cette partie plus prolifique, a évolué dans la perception, dans son disque
Pratiquement, il y a peut-être quelques œuvres de Haydn qui n'ont jamais été enregistrées, mais très peu. On dispose de l'ensemble de sa production. Comment ça a été perçu? Si on les enregistre, c'est quand même qu'il y a un débouché, autrement on ne le ferait pas.
Oui, mais même en musique classique, il y a aussi des modes, on le sait très bien. On sait que parfois, il y a des décennies pendant lesquelles l'opéra va revenir à la fin.
Haydn n'est pas tellement un compositeur...
Justement, ce que vous disiez au début.
Qui marche dans les modes.
Exactement.
C'est un compositeur qui est toujours présent, peut-être moins que d'autres, et moins dans la conscience du public que d'autres, mais qui est toujours là. Je veux dire, actuellement, moi je m'occupe pour le monde de la musique. Ça ne fait rien si je le cite.
Non,
ça ne sait jamais.
Pas de problème.
Je m'occupe pour le monde de la musique des disques de cette période-là. Il n'y a pas de moi sans lequel il n'y ait un ou plusieurs CD consacrés à Haydn. Il y en a sans arrêt. Ce n'est pas le seul compositeur dont on puisse dire ça, mais c'en est un.
Alors justement, est-ce que il vous arrive encore justement de parler, l'œuvre étant tellement pléthorique, de redécouvrir justement par certaines versions des œuvres sous un autre angle?
Oui,
un autre angle.
Parmi les œuvres les plus enregistrées, il faut bien dire qu'il y a les symphonies, en particulier les dernières, les 12 qu'il a composées à Londres à la fin de sa vie, les dernières, et puis celles qui précèdent immédiatement. Là, il y a plusieurs intégrales, et effectivement, on les joue plus tellement maintenant comme on les jouait il y a 50 ans. Il y a quand même une évolution dans la façon de jouer cette musique.
Est-ce que... On parle évidemment de son importance... stylistique, enfin, dans l'histoire de la musique, mais la personnalité, quelle était sa personnalité? On parle de son sens de l'humour, on sait que c'était quelqu'un qui était très populaire, même je crois qu'à la fin de sa vie, les rapports qu'il avait avec des plus jeunes compositeurs, enfin, c'était quelqu'un qui était vraiment, qui n'était pas spécialement un dictateur ou qui ne se prenait pas pour ce qu'il était. Quelle était sa vraie personnalité au fond et son...
On peut dire deux choses. D'autre part, c'est quelqu'un dont la personnalité est assez difficile à cerner.
On a peu d'informations quand même.
Si, surtout à la fin de sa vie. Au début, assez moins. Mais il y a quand même un certain nombre de lettres, un certain nombre de témoignages sur lui. C'est quelqu'un, je pense, qui se livrait pas très facilement. Et c'est une des choses aussi quelquefois des gens qui disent ça à propos de sa musique. On voit très bien la musique, mais on a du mal à cerner la personnalité qu'il y a derrière. En fait, c'était une personnalité assez ambiguë, qui avait le sens de l'humour, qui était, quand on disait de l'humour, c'était toujours sérieux. C'était quelqu'un qui oscillait entre le très sérieux et l'humour. Cela dit, c'est quelqu'un qui, en ce qui concerne ses... l'attitude envers les jeunes compositeurs était très appréciée, mais c'est quelqu'un qui avait aussi conscience de sa propre valeur.
Ce que j'allais vous demander, est-ce qu'il était conscient?
Ah oui, mais ça, je veux dire, je m'excuse, tous les grands génies, quels qu'ils soient, en musique, ils ont toujours conscience de leur propre valeur. Ils le manifestent plus ou moins, mais si vous voulez, quand on demandait à Beethoven quel pour compositeur actuel, après vous, et ça allait de soi, la réponse. Et on a demandé ça une fois à Beethoven en 1817. Le compositeur vivant le plus grand après vous, on sait ce qu'il a répondu. Il a répondu Cherubini. Haydn et Mozart étant morts et Schubert n'était pas très connu, il a répondu Cherubini. Ce qui, du point de vue où Beethoven se plaçait en 1817, se comprend.
Comment Haydn est perçu en France par rapport à d'autres pays, comment il a été à travers...
De son vivant, il a eu, il a été tout de suite très bien perçu en France. Il faut dire que il a eu une réputation européenne de son vivant et assez rapidement. Alors je vous redis pourquoi. C'est parce qu'il personnifiait la musique nouvelle. C'est-à-dire la symphonie, le quatuor à cordes, etc. Il était reconnu très vite comme le plus grand représentant de cette nouvelle musique. Mozart, beaucoup moins, parce qu'à cause de sa biographie, il était enterré à Salzbourg, etc. Bon, c'est venu après Mozart. Bon, et alors, faut dire aussi que l'édition musicale qui a largement contribué à faire connaître la musique de Haydn en Europe de son vivant, sans qu'il quitte Vienne et ses environs. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a fait son premier grand voyage à l'âge de 58 ans, quand il est allé à Londres. Auparavant, il n'avait jamais quitté Vienne et ses environs, c'est-à-dire essentiellement pendant 30 ans, le château des Esterhazy, dont il était le maître de chapelle, qui était à 100 km de Vienne, donc il venait à Vienne. Mais son premier grand voyage à 58 ans, quand il était à Londres. Mais pendant toutes ces années, sa musique a été très diffusée à travers l'Europe par le biais des éditions, sans que lui-même, au début, en sache rien. Et ça ne lui a rien rapporté, du moins...
C'est pas quelque chose qu'il gérait ou qu'il...
Il a fini par le gérer quand il s'en est rendu compte, mais au début, il ne le gérait pas. Il y avait une demande très forte pour cette musique nouvelle. Et un des centres de l'édition musicale, c'était pas Vienne, au début, donc la ville qui était la plus proche de là où il était, c'était Paris. Et puis, des villes comme Londres ou Amsterdam. Et c'est à Paris qu'en 1764, quand il avait 31 ans, ont été pour la première fois éditées certaines de ses œuvres. Et les éditions de ses œuvres à Paris ont continué jusqu'au début du 19e siècle, pendant 40 ans, sans arrêt. Dans d'autres villes aussi, mais sa renommée européenne s'est faite pour beaucoup par là.
Je voudrais juste revenir sur ce que vous avez évoqué, sur la façon dont il était perçu en Europe de son vivant. Je trouvais une interview où Christophe Coin disait, peut-être que c'est quelque chose qui parlera peut-être plus aux gens d'aujourd'hui pour se rendre compte, il disait, Haydn avait cette grandeur propre d'établir un courant européen. On disait à Paris, toutes les sociétés de concert jouaient à chaque concert une symphonie de Haydn, tout en laissant beaucoup de liberté aux autres compositeurs. Il disait, c'est un peu le Messiaen ou le Boulez de l'époque, une référence universelle.
Oui, ça, ce genre de rapprochement, faut quand même pas exagérer, mais je veux dire, cette musique nouvelle, donc symphonie, quatuor à cordes, et forme sonate, dynamique, c'est très important, c'est lui qui très vite a été personnifié comme en étant le plus grand représentant. Ça veut pas dire qu'on n'ait fait que ça, on a fait aussi de la musique instrumentale qui était moins typique et typée que celle-là, et en particulier ce qu'on jouait au Concert Pierre-Rituel à Paris, c'était pas uniquement des symphonies de Haydn, mais quand même sa position de chef d'une espèce d'avant-garde, du chef de la musique moderne, c'est indéniable. Alors à ce moment-là, on peut dire que c'était le Boulez de l'époque. Je ne sais pas ce que Boulez en penserait. Quoi. Je sais que Boulez apprécie particulièrement Haydn. Quand il était à la tête de la Philharmonie de New York, il a fait une saison Haydn. Ça prouve au moins qu'il ne déteste pas ça. N'est-ce pas ? Et si Mozart ne l'a pas été, ce n'est pas de la faute de la bêtise des contemporains. C'est parce que sa situation personnelle était autre.
Alors, vous dites, comme tout grand génie, Haydn était conscient de sa valeur, mais comment il jugeait sa propre œuvre, et est-ce que finalement, dans toutes les formes lesquelles il a créées, est-ce qu'il y avait quand même quelque chose qui lui tenait plus à cœur, ou dans lequel il avait vraiment l'impression d'avoir vraiment accompli un peu ses chefs-d'œuvre ?
C'est étonnant, parce que pour la postérité, Haydn est quand même un grand maître de la musique instrumentale. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas composé de la musique vocale, en particulier à la fin de sa vie. Ses six dernières messes, la création et les saisons, composées à une époque où il n'écrivait plus de symphonie, donc après 1795, c'est aussi des œuvres qui ont marqué leur époque et la postérité et qui ont eu un énorme succès. Mais Haydn, tout en composant des symphonies, a écrit des opéras et des choses comme ça chez les Esterhazy. Ce qui est intéressant, c'est quand il a rédigé en 1776 une espèce d'autobiographie pour une revue autrichienne. Donc, il avait à l'époque 44 ans. Il a cité des œuvres, mais il a cité des opéras et des œuvres de musique religieuse, et pas des symphonies. Il a quand même rappelé qu'il écrivait de la musique instrumentale, mais pour lui... ça n'avait peut-être pas la même importance pour la reconnaissance par autrui que certains opéras, ce qui a été inversé par la postérité. Mais cela dit, il savait quand même... Il y a peu de déclarations de Haydn sur ses œuvres. Il y en a peu, il n'y en a pratiquement aucune. C'est quelqu'un qui écrivait et qui avait plutôt tendance à dire « qui m'aime me suive ». Alors que Mozart disait « regardez comme je vous aime et comme vous devez m'aimer ». C'est très différent comme attitude. Ce n'est pas un jugement de valeur sur la musique de l'un et de l'autre, mais Haydn, c'était plutôt du genre qui m'aime me suivent et voilà.
Dans la profusion d'enregistrements disponibles, et je pense que ça ne va pas s'arrêter avec l'anniversaire qui arrive, est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent essentielles en enregistrement, en Haydn enregistré, qui n'ont pas été rééditées, par exemple, actuellement, des anciens enregistrements qui ne seraient pas disponibles et qui vous semblent vraiment importants?
Oui, mais alors, là, je ne crois pas qu'on ne les revoit jamais. Par exemple, parmi les quatuors à cordes qui ont été enregistrés dans les années 50 par la Haydn Society de Boston, et beaucoup d'œuvres en première audition. Il y a un quatuor qui était dans le premier violon, était Alexandre Schneider, le grand violoniste, qui a fait des quatuors, des versions de quatuors assez extraordinaires, qu'on n'a jamais revues, même en CD. Qu'on n'a jamais revu en CD, parce qu'elles sont sorties en micro-sillon. Si, il y en a, il y a eu une série de symphonies par Max Gobermann avec la Philharmonie de Vienne ou l'Orchestre de l'Opéra, aux alentours de 1960. Ça devait être une intégrale. Malheureusement, le chef est tombé mort dans les rues de Vienne, ça s'est arrêté. Si, il y en a. Il y en a, mais on a fait aussi quand même beaucoup de bonnes choses depuis.
Alors justement, dans ces bonnes choses, si quelqu'un qui ne maîtrise pas trop le chapitre Haydn désire se lancer dans l'investissement, alors évidemment, on pourrait prendre peut-être pas pour chaque forme, mais qu'est-ce qui vous semblerait, quels seraient les quelques enregistrements et par quel interprète vous semblerait vraiment important
Avant de dire quels enregistrements, je dirais quelles œuvres.
Par où commencer, voilà.
Oui. Ben, je veux dire, on ne peut pas savoir qui est Haydn sans connaître ses quatuors à cordes et ses symphonies. Et aussi la création et les saisons, comme les deux grands matériaux de la fin de sa carrière, et la musique religieuse. C'est un domaine quand même bien, bien exploré en disque. Mais je pense que c'est un domaine où peut-être il surclasse tout le monde à son école. Même Mozart, malgré le Requiem et la Messe en lutte mineure, qui sont des œuvres d'exception. Mais si on prend le tout courant de la musique religieuse de Haydn, c'est une œuvre qui est constamment très haut. Alors il y a beaucoup de
versions. Quelles sont les versions qui vous touchent le plus? Alors, quelques-unes comme ça, évidemment, on ne peut pas tous les... Mais qu'est-ce qui vous viendra à l'esprit? Quelles sont celles qui vous tiennent à cœur?
Pour les symphonies, il y a plusieurs intégrales. Il n'y en a que deux, en fait, actuellement. Deux chefs d'orchestre qui ont enchaîné toutes les symphonies et qui sont disponibles actuellement sur le marché. Il y a d'abord Antal Doraty, qui a enregistré toutes les symphonies dans les années 70. Chez Decca, on trouve ça toujours. Et il y a aussi Adam Fischer, qui a enregistré toutes les symphonies, qui sont parues chez Nimbus pour commencer, ensuite chez Brillant, séparément, et qui font maintenant partie du coffret de 150 CD Haydn, qui paraît à l'occasion de son bicentenaire. Donc alors dans les londoniennes, il y a une très bonne intégrale pour Yoku, mais aussi Arnoncourt qui a fait une très bonne intégrale. Je recommanderais pas Karajan, qui est à mon avis trop lourd. Il y a actuellement un jeune chef allemand qui s'appelle Thomas Fey qui fait une intégrale des symphonies de Haydn qui n'est pas terminé. C'est une intégrale, à mon avis, inégale, mais il y a des très bonnes choses, surtout dans les symphonies du milieu. Pour les quatuors à cordes, ce que fait le quatuor Bourbaigue actuellement, je trouve que c'est très bien. Ce qu'a fait le quatuor Lindsay, c'est aussi très bien. Il y a pas mal d'intégrales. Il y a une intégrale de quatuor qui existe déjà par le quatuor Angeles, qui est un quatuor américain. Là, vous avez en un coffret les 68 quatuors de Haydn. Ça, c'est tout à fait recommandable. Les Bourbaigue n'ont pas terminé, donc je ne sais pas. Dans les messes, il y a beaucoup de choses. Il y a des Nelson Paris-Cox. Il y a une intégrale de la musique religieuse, des messes du moins, par Hickox chez je sais plus quoi, qui est aussi très bien. Je veux dire, il y a de quoi. Thank you.
Et quels seraient la, quels sont les interprètes, on va dire, les musiciens qui, d'après vous, ont fait le plus pour Haydn, ont été son meilleur ambassadeur? Alors peut-être, bon, vous avez cité évidemment des exemples, mais dans ceux, on va dire, que le public connaît le plus, bon, vous avez dit par exemple, à l'inverse, vous avez dit, je ne recommanderais pas Karajan.
Ça dépend, parce que pour la création, oui. Mmh. La création par Karajan, la première de ces deux versions, en général, quand on fait une comparaison pour cette œuvre, elle ressort toujours en tête de liste.
Est-ce qu'aujourd'hui, certains musiciens vous semblent un peu des meilleurs ambassadeurs
ou de, dire, parmi les chefs d'orchestre, bon, il faut bien dire tous les chefs d'orchestre connus ont enregistré du Haydn, en particulier les dernières symphonies. Vous n'en trouverez pas aucun qui a jamais enregistré de Haydn. J'en citerai deux que je trouve particulièrement en rapport avec son style et ses personnalités. C'est Eugène Jochum. Alors, il a enregistré les 12 londoniennes, plus d'autres symphonies, plus la création, plus une ou deux messes. Bon. Et Leonard Bernstein. Leonard Bernstein a enregistré toutes les londoniennes, les symphonies parisiennes. Il y a au moins 18 symphonies de Haydn par Leonard Bernstein, dont certaines en plusieurs versions. Là aussi, il y en a de plus ou moins réussi, mais c'est quelqu'un qui a eu des affinités profondes et étroites avec Haydn. Je citerai Bernstein et Jochum parmi les gens de l'ancienne génération, parmi les gens qui ont maintenant aujourd'hui disparu.
Alors le disque dont on vient d'en parler,
mais c'est des choses qu'on trouve, ça. Ouais.
Le disque dont on vient d'en parler, mais la scène, comment Haydn est représentant les concerts? Est-ce que vous trouvez que, et pareil, il y a des modes, des œuvres qui sont plus jouées que d'autres pas assez à votre goût?
La création, c'est une œuvre qu'on... Par exemple, à Paris, où je vis, il ne se passe pas de saison sans qu'on ait deux ou trois fois la création en concert. Il y en avait une encore il y a trois jours, samedi dernier, par Philippe Hervaig, il y en a une par Wilhelm Christy. Bon, les symphonies aussi, on joue. Ce qu'il y a maintenant, ce qui n'était pas encore tellement le cas il y a 10 ou 20 ans, maintenant il y a des concerts où il n'y a que du Haydn, ça arrive. Et pas seulement la création qui remplit une soirée elle seule. À la Cité de la musique, il y a eu, il y a quelque temps, l'intégrale de 12 londoniennes en trois concerts. Il y a des quatuors qui donnent une série de Haydn. On joue. Et pas seulement les dernières œuvres.
Alors, vous avez donc écrit un ouvrage sur lui. Vous avez écrit un ouvrage sur lui et Mozart. Comment se passe la recherche? Est-ce que vous continuez à rechercher? Vous faites de la recherche? Comment ça se passe? Vous avez des homologues, j'allais dire, des Haydaniens aux quatre coins du monde avec lesquels vous correspondez?
Quand j'ai fait mon gros point sur Haydn, donc, qui est paru maintenant il y a 20 ans, et j'ai mis 10 ans à écrire, donc j'ai commencé il y a 30 ans, j'avais des idées. Bon, je ne suis pas tombé dans une terra absolument incognita. Il y a des gens qui avaient fait des recherches et qui m'ont été utile. Je ne suis pas quelqu'un qui ait fait des recherches de première main. Ça m'est arrivé de trouver des choses, mais quand même, choses indispensables à faire pour écrire un bouquin pareil, c'est d'être au courant de ce qui s'était fait dans la recherche haydonienne depuis en gros 1950. Alors il y a deux sources principales qui me sont venues en aide. C'est d'une part les travaux de Robin Slandon, musicologue américain, Robin Slandon, qu'on connaît aussi parce qu'il a fait des bouquins sur Mozart. Mais en fait, son centre d'intérêt principal, ça a toujours été Haydn. Et il a écrit plusieurs livres sur Haydn, dont le livre sur les symphonies dont je vous ai parlé au début et qui est paru en 1955. Il avait à l'époque 29 ans. Et ce qui a lancé à la fois Haydn et Robin Slandon. Dans les années qui ont suivi, il a publié un certain nombre d'œuvres, il a fait des recherches, il a publié des revues spécialisées, etc. Il a republié une grande série d'ouvrages sur Haydn vers 1980 en 5 volumes, très importants, documentaires, etc. Bon, je m'en suis inspiré, je ne le cache pas. Et puis, il y a aussi les travaux. Haydn est quelqu'un dont, au 19e siècle, il n'y a pas eu d'édition complète. Et même actuellement, elle n'est pas encore terminée. Mais il y a le Joseph Haydn Institute qui est à Cologne, qui existe depuis à peu près la même époque. Je crois qu'il a été fondé en 1955 et qui, depuis cette époque, publie l'œuvre complète de Haydn, ce qu'on appelle en allemand une Gesamtausgabe, ce qui a eu lieu pour Mozart et Beethoven au 19e siècle, il y a même une nouvelle depuis. Pour Haydn, c'est la première fois. Donc, cette édition complète est à peu près terminée maintenant, que je sache. Et c'est aussi des gens qui ont publié des travaux écrits faisant état de leur recherche sur Haydn, etc. Donc, ça, j'en suis servi, c'est évident. Mais pour écrire un bouquin comme le mien, il fallait connaître ça. Donc, posséder la langue allemande et la langue anglaise, ce qui est mon cas. Alors, ce qu'on peut dire aussi sur la vie de Haydn, c'est que, comme vous le savez, il a été pendant 30 ans au service de la famille Esterhazy, et que la période, les 20 dernières années de sa vie où il n'était plus au service quotidiennement de la famille Esterhazy, il est resté nominellement. Il est mort avec le titre de maître de chapelle des Esterhazy, même si ses tâches à partir de 1990, à partir de ses voyages à Londres, de ce qui a suivi, étaient beaucoup moins absorbantes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que donc, les Esterhazy étaient une famille qui cultivait assidûment et étroitement la musique, non pas uniquement pour des raisons de prestige, comme la plupart des familles nobles à Vienne, en Autriche, à cette époque, mais parce qu'ils aimaient vraiment ça. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans le cas de Haydn, et du moins de sa biographie, c'est que les archives de la famille Esterhazy ont survécu intactes jusqu'à nos jours, pour des raisons historiques, parce que les princes Esterhazy, ça existe toujours maintenant, et il n'y a jamais eu d'incendie, il n'y a jamais eu de dispersion de ces archives, mais bien sûr, elles n'ont été explorées. Elles ont été explorées déjà au XIXe siècle par le grand biographe de Haydn du XIXe siècle qui s'appelait Paul, mais c'est surtout depuis les années 1930 qu'il y a des gens dont le boulot était d'explorer ces archives et de publier ce qui concernait Haydn. Donc, au point de vue biographique, c'est unique. Il n'y a pas l'équivalent pour Bach à Leipzig, ni pour Mozart à Salzbourg. Tout a survécu. Par exemple, on sait quel jour Haydn a acheté des cordes de violon en mi, ou en la, ou en ré. Ça, je vais dans l'extrême du quotidien. Mais on sait exactement...
Ça donne le degré de précision, justement.
Oui, non, mais tout ça, c'était archivé et ça a survécu. Donc, ça aussi, c'est des choses qu'on a vraiment explorées depuis le milieu environ du XXe siècle et qui a donné lieu à des publications dont j'ai pu me servir en décrivant mon livre. Et je veux dire, les Esterhazy, c'était pas uniquement des, il y avait pas uniquement l'aspect musical de ces archives. C'était des gens qui avaient, c'était une entreprise économique avec des, il y avait plusieurs centaines de gens qui étaient au service des Esterhazy. Alors tout ça, on sait, et ça me permet quand même de préciser une certaine chose. On compare toujours Mozart et Haydn en disant Haydn est resté laquais jusqu'à la fin de ses jours et Mozart s'est émancipé. C'est vrai que Mozart s'est émancipé, mais Haydn a fait tout autant par d'autres moyens. Premièrement, quand il a... Je veux dire, la position de Haydn chez les Esterhazy en 1790, quand le prince est mort et qu'il a pu partir à Londres, n'était pas du tout... celle qui était la sienne quand il a signé son contrat en 1761. Entre-temps, Haydn avait noué des contacts avec les éditeurs à droite et à gauche, faisait lui-même le commerce de sa musique avec l'assentiment du prince, du moins sans que le prince dise rien, alors qu'en principe, dans le contrat qu'il avait signé en 1761, il avait écrit que sa musique était à l'usage exclusif du prince. Or, c'était un clause qui a été qui n'est jamais entré dans les faits, et à la fin, c'était tout à fait officiel. Donc, l'émancipation de Haydn s'est faite différemment, mais tout autant que celle de Mozart. Et quand le prince est mort, Haydn est parti à Londres et il a terminé sa vie en musicien indépendant, bien que toujours nominellement au service des Esterhazy. Ce qui avait quand même son avantage, c'est que pendant toutes les années, il a touché une pension et son salaire, ce qui n'était pas le cas de Mozart. Vous voyez, il faut vraiment nuancer ce genre de comparaison.
Alors, on va terminer sur cette célébration l'année prochaine. On va sûrement vous entendre.
Je ne sais pas.
C'est bien possible. On se penchera sur...
Pour cette célébration, je sais qu'à Vienne, il y a beaucoup de choses de prévues. Je ne sais pas quoi. Mais il paraît qu'ils veulent faire ça encore plus grand que Mozart en 2006. Bon, admettons, mais je n'ai pas de détails. Je sais qu'en Angleterre, il y a un comité d'insurrection, parce qu'il y a quand même des liens entre Haydn et l'Angleterre, puisqu'elle était deux fois à Londres, et il y a en Angleterre un comité national pour la célébration du bicentenaire de Haydn, qui vont certainement faire plein de choses. En France, je ne sais pas.
Mais alors, justement...
Je ne sais pas s'il y a quelque chose.
Les spécialistes, on n'a plus besoin de les convaincre sur le cas Haydn. Mais j'allais dire, le grand public, quel message vous aimeriez vous faire passer à ceux qui connaissent juste Haydn comme un nom? Vous l'avez dit tout à l'heure, finalement, il n'y a pas vraiment, j'allais dire, d'œuvre. Les gens connaissent le nom, mais en général, on cite toujours des œuvres de Mozart ou de Beethoven.
On connaît quand même la...
Quelles sont les choses que vous avez envie de faire passer justement pendant ce bicentenaire pour un public, j'allais dire, moins spécialisé?
C'est difficile à dire. Il y a la création, les saisons pour ceux qui ont de la musique vocale, certaines messes comme la Nelson Messe, et puis les grandes œuvres instrumentales, les symphonies. Alors on peut prendre un coffret des londoniennes, par exemple celle de Yocum est très bien, certains quatuors, les trios. Pour ceux qui jouent du piano, les trios piano-violon-violoncelle sont parmi ses plus grandes œuvres et très intéressantes. Mais alors, je vous répète, je ne sais pas du tout ce qui est prévu officiellement en France pour ça. Je sais qu'il y a un concert le 31 mai, le vrai 200e anniversaire, qui est d'ailleurs le dimanche de Pentecôte. Il y a un concert à la Cité de la Musique où il y a la dernière symphonie et la dernière messe, dirigée par Tom Kopman. Ça, c'est déjà programmé. Il y en aura probablement d'autres, certainement. Je sais que, par exemple, à Dijon, le quatuor Manfred, qui est un quatuor qui joue plein de choses, est en train de jouer l'intégrale des quatuors de Haydn à Dijon. Alors ça existe. Est-ce que ça c'est? Oui, je suppose, mais il y aura certainement un jour. Mais je demande s'il y a d'officiel de prévu en France. Je ne sais pas, j'avoue. On ne m'a rien dit, on ne m'a pas contacté, j'ai entendu parler de rien. Contrairement à ce qui se passe en Autriche, en Angleterre, en Allemagne et probablement aux États-Unis. Moi, je dois aller à Ottawa, un colloque Haydn, au mois de janvier prochain. Donc, il y a quelque chose.
Bien. Mais écoutez, avec célébration, je pense qu'on aura de quoi écouter. Donc, vous avez cité effectivement le premier volume de cette intégrale Haydn qui est sorti chez Briand Classics et d'autres qui vont suivre. Eh bien, merci beaucoup, Marc Vignal.
Merci de m'avoir invité.
Cobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.